France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Mon inséparable, c'est le titre du premier film d'Anne-Sophie Bailly sorti au cinéma mercredi dernier et qui nous a donné envie de revenir sur un sujet intime et sur lequel on dit peu ou mal les choses. Mon inséparable, c'est l'histoire d'un couple mère-fils. Elle a la quarantaine pétillante, son fils dans la vingtaine souffre d'un retard mental et l'on va suivre leur émancipation l'un de l'autre entre envie de liberté et douleur, colère et retenue, besoin de respirer, de prendre son indépendance des deux côtés. En sachant que ce lien entre un parent et son enfant en situation de handicap est toujours complexe mais vital. Un amour inconditionnel avec du ressentiment parfois. Il y a une forme d'équilibre qui a fini par se construire dans ce déséquilibre. Alors si vous vivez ce genre de situation, que vous l'avez vécu, racontez-nous comment vous accompagnez votre enfant devenu adulte, ce que son handicap dit aussi de vous-même. Comment trouver la bonne place entre le rôle d'aidant et celui de parent? Et est-il possible de couper le cordon? C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Bonsoir Anne-Sophie Bailly.
Bonsoir.
Vous êtes la réalisatrice de ce film. À vos côtés, le comédien qui joue le fils de Laure Calamy, Charles Pecciagalletto. Merci d'être avec nous dans ce studio. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Et nous sommes aussi en ligne avec Elisabeth Lamers. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente de l'UNAPI, c'est un réseau national accompagnant des personnes avec des troubles du neurodéveloppement, polyhandicap aussi. On va prendre tout de suite un premier appel au 01 45 24 7000. C'est Lucie qui est en Ille-et-Vilaine. Bonsoir Lucie.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Eh bien, en fait, donc moi j'appelle parce que je suis monitrice éducatrice dans un foyer de vie en Ille-et-Vilaine. Et du coup, au quotidien, on peut voir en fait ce lien que les parents ont avec leur enfant. Et du coup, moi, j'accompagne particulièrement des personnes vieillissantes. Et du coup, le cordon, effectivement, peut être parfois compliqué à être coupé, puisque les parents se battent depuis très longtemps pour avoir une place dans la société, en fait, avec leur enfant. Et surtout les parents qui sont vieillissants ou leur enfant est aussi vieillissant, c'est-à-dire que dans les années 50-60, eh ben, il existait très peu de structures. Et donc je pense que du coup, ils ont dû tellement se battre que le cordon est compliqué à couper. Quoi.
Et ils ne les voient pas comme des adultes?
Non, c'est... Bah, non, je dirais pas un non définitif, mais disons que pour beaucoup, oui, c'est compliqué de les voir comme des adultes parce que ben, du fait qu'ils aient eu besoin de se battre tout le temps, quoi.
J'aimerais bien qu'on en parle avec Elisabeth Lamers, justement, ce cordon. Alors là, on est tout de suite au cœur du sujet. On n'arrive pas à le couper, c'est plus difficile, parce qu'on a beaucoup investi aussi, on a passé beaucoup plus de temps avec cet enfant-là et qu'on ne l'a pas forcément vu grandir.
Je dirais que dans l'histoire de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, je suis vice-présidente de l'UNAPI et comme vous l'avez bien dit, que c'est une organisation qui a à peu près 330 établissements en France. Et nous sommes passés par plusieurs étapes. La première étape, ça a été très très bien décrit à l'instant par
Lucie.
Par Lucie. Merci beaucoup Lucie. C'était de protéger les personnes de la société parce qu'ils n'avaient aucune place. Donc on a trouvé on a acheté des maisons, on a mis les enfants ensemble. Ces enfants ont grandi, on a trouvé des possibilité pour ces personnes et on a professionnalisé, donc on a des professionnels qui ont pris le relais des parents. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'accompagnement à l'autodétermination.
Donc, alors, expliquez-nous ce que ça signifie l'autodétermination.
Ben, l'autodétermination, ça veut dire que c'est la personne qui est au centre. La personne va décider de sa vie. La personne, on va lui demander où est-ce qu'elle veut vivre, comment elle veut vivre et avec qui elle veut vivre. Et c'est évidemment un processus pour les personnes qui sont déjà un peu plus âgées. C'est clair que c'est difficile à accepter. Ils se sont tellement battus
Oui,
avoir,
bien sûr, c'est ça. Pour les parents, c'est quand même un moment assez déchirant, finalement, cet enfant-là, il nous échappe.
Ça me laisse la possibilité de vous emmener sur une enquête que nous avons faite en 2023.
On va y venir, oui.
Très bien, si vous voulez qu'on parle.
On va y venir dans un instant, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle du film, puisque nous sommes avec Anne-Sophie Bailly et avec l'acteur principal, Charles Pecciagalletto. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter? Pourquoi d'abord avoir choisi ce sujet si difficile à un moment précis de la vie d'un adulte, d'un parent et de son enfant?
Moi, ça m'intéresse beaucoup, l'auditrice qui parlait du fait qu'elle accompagnait des gens vieillissants, parce que la première image qui m'a donné envie de raconter cette histoire, c'est l'image de deux femmes qui étaient mère et fille et qui étaient plus âgées, qui avaient 80 et 60 ans et que j'avais rencontrées en maison de retraite. Je viens d'une famille de soignants et puis je travaillais comme ado en maison de retraite avec ma maman infirmière. Et j'avais rencontré ce duo-là de femmes. Donc une maman qui avait 80 ans et sa fille qui avait la soixantaine, et elles avaient toujours vécu collées. Mmh. Parce que justement, l'institutionnalisation n'avait pas été possible pour différentes raisons, aussi peut-être pour des choix. Et elles s'étaient retrouvées ensemble en maison de retraite avec donc Yolande, la fille qui avait un petit retard. Et je m'étais dit, c'est impressionnant parce que ça dit le lien filial qu'on vit tous à des degrés, des niveaux différents, mais d'une façon toute particulière et en même temps très universalisable. Mais ça tend tous les enjeux, le handicap. C'est-à-dire que, effectivement, Madame de l'UNAPI parle de la nécessité de protection versus l'envie de donner l'autodétermination de...
On a envie qu'il soit autonome.
Ben, je pense, ouais. Je pense
c'est
que,
le but, hein. Le
bien
but,
sûr.
C'est de l'aider le plus possible à être autonome et en même temps...
Je pense que la peur est aussi légitime quand on est proche de personnes qui sont considérées, parfois à tort et parfois à raison, comme plus vulnérables. Mmh. Et c'est vrai que la tension entre ces deux choses-là, cette grande volonté de protection et ce désir de l'envol, je crois qu'elle existe dans toutes les familles, mais qu'elle est particulièrement frappante et touchante dans ces familles-là.
Charles, puisque vous êtes avec nous dans ce studio et que vous souffrez vous aussi d'un léger handicap, comment vous l'avez vécu ça dans votre famille, ce lien dont elle parle, ce lien qui est un mélange d'envie et de peur?
Alors, je dirais plutôt chez mes parents, parce qu'il y a une peur chez tous les parents finalement, c'est qu'est-ce qui se passera quand je ne serai plus là pour mon enfant. Mmh. Et dans le cas du handicap, en fait, ça multiplie les peurs des parents, parce que même chez les enfants, entre guillemets, normaux donc.
Oui.
Je dis ça parce que si vous voyez le film, vous comprendrez.
Ah ben, moi, je l'ai vu, le film.
Hein. Mais c'est pas une très jolie formule, mais si vous voyez le film, vous comprendrez.
On va y venir, hein, au cœur du film.
Et donc, qu'est-ce qui se passera? Mais moi, j'ai bien vu mes capacités qui, certes, se réduisaient sur quelques aspects, parce que le handicap s'est déclaré... à l'adolescence, fin d'adolescence. Mmh. Donc j'ai bien vu que mes capacités sur quelques aspects diminuaient. Mais je me suis dit, c'est la vie. Hein.
Et vos parents, ils vous ont lâché?
Et
assez facilement?
Les parents, je suis parti de chez moi quand j'avais 24 ans.
Je précise que vous êtes comédien professionnel.
Oui, oui,
ça marche très bien pour vous, même en ce moment.
Bah, ça marche bien, mais j'aimerais bien avoir d'autres projets. Mais bon, j'appelle les réalisateurs, les producteurs...
Profitez-en.
...qui nous écoutent à m'engager. Donc, il y a plutôt une peur vis-à-vis des parents envers l'enfant plutôt que de l'enfant envers les parents ou l'avenir ou, mm-hmm. ou tout.
Qu'est-ce que vous en dites, Elisabeth Lamers?
Ben, c'est magnifique ce qu'il vient de dire, c'est exactement ça. C'est la peur de « après nous ». C'est vrai que dans notre enquête auprès des parents, 95% des parents ont dit « mais qu'est-ce qui se passe après nous ?» Il y a même une association dans le nord, en Bretagne, qui fait un programme après nous, donc qui propose vraiment des solutions pour les enfants, nos enfants qui sont devenus des adultes.
Et qu'est-ce qu'on peut faire justement concrètement dans ce après nous ? Vous pouvez nous donner quelques exemples ?
Je n'ai pas de recette. Je n'ai pas de recette, mais je pense que il faut déjà préparer nos jeunes.
Il faut qu'il y ait un accompagnement d'une manière ou d'une autre.
Oui. Oui, c'est très important, être accompagné. On a bien vu dans le film aussi que ces jeunes qui ont décidé d'avoir cet enfant, je pense aussi que c'est très, très... L'UNAPI fait ça depuis 20 ans déjà. Nous avons des programmes qui s'appellent les SAAP, c'est Service Accompagnement et Aide à la Parentalité. Dans le nord de la France, ça marche très, très bien. Ça a été construit avec le département et les associations. Donc, c'est un travail ensemble entre multiples acteurs et qui vont permettre à ce que nos jeunes, nos enfants, nos adultes puissent vivre dans la société.
Mmh. Alors Anne-Sophie Bailly, on en parle de ce film, puisque justement Charles nous disait, mais enfin quand même ce film, est-ce que vous l'avez vu ? Bon, moi je l'ai vu évidemment, donc il y a Laure Calamy hein, qui est sa maman, et puis il y a un moment où ce grand garçon, dont elle s'est toujours énormément occupée, lui fait une annonce qui ne va pas trop lui plaire.
Complètement, mais d'ailleurs il n'arrive pas à lui faire.
On peut dire ce que c'est ?
Bien sûr.
Je vous laisse le dire.
Joël est amoureux. Oui. Et non seulement il est amoureux, mais il est amoureux d'une collègue de travail, comme beaucoup d'entre nous.
Oui.
Et cette collègue de travail est tombée enceinte.
Oui, et cette collègue de travail a un handicap mental elle aussi.
Ouais, elle s'appelle Océane.
Oui.
Elle a les yeux bleus comme l'Antarctique dont rêve Joël. Et ils sont très amoureux et ils veulent cet enfant.
Mmh. Évidemment, là, c'est un peu le clash. Les parents respectifs disent en gros « non mais ça va pas la tête ».
Ouais, j'ai essayé de distribuer un peu au travers de ces différents personnages secondaires. Je dis secondaires dans le sens très noble du terme, hein, c'est-à-dire qu'on suit évidemment Joël et Mona, mais on a aussi des forces en présence qui sont très importantes, les Océane, les parents d'Océane. Et effectivement, ils sont mus par des choses que j'ai beaucoup vues, de peur qui peut devenir de la colère. La colère qu'on n'ait pas pris soin du consentement de son enfant, qu'on ne l'ait pas assez protégé, justement. On parlait de protection. Y a aussi les réactions des accompagnants, que ce soit moniteur des AT, éducateur, etc. Mmh. Et comment ils essaient de se positionner un peu différemment, de trouver une place dans la quadrature. Et tout ça, ça a été passionnant à écrire.
Mais c'est une double émancipation, au fond, hein, parce que lui va devenir papa et il a envie de vivre sa vie, mais elle rencontre l'amour.
Ouais, moi je voulais pas faire un film à thèse sur le handicap et donner tous les ingrédients de comment ça se passe. En plus, Elisabeth le dit très bien, on est encore dans des réponses qui sont empiriques, qui sont... En fait, il y a de très belles bonnes volontés qui sont en route depuis longtemps, mais c'est des familles, des enfants, des parents qu'on voit pas encore assez, donc qu'on considère pas encore assez.
Mmh. Et pourquoi on ne les voit pas ses parents, Elisabeth Lammers, pourquoi on ne les entend pas, pourquoi ils sont quasi invisibles finalement, à ce moment-là de leur vie?
Je ne comprends pas votre question, pourquoi les parents ne sont pas visibles?
Non, mais à ce moment-là de leur vie, c'est-à-dire quand ils sont dans cette bascule-là, comme le disait Anne-Sophie Bailly. Anne-Sophie, vous voulez peut-être expliquer?
Oui, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu l'impression, en tout cas, que dans la représentation populaire, je ne voyais pas beaucoup de parents, de jeunes parents de mon âge, un peu plus jeunes ou un peu plus vieux, qui sont en situation de handicap et qui veulent des enfants. Et je trouve qu'ils sont encore assez peu présents dans la fiction.
Je pense que c'est aussi le regard de la société. Hein. Mmh. Nous avons déjà à nous battre avec... déjà, quand on est jeune parent, je pense que quand on a un enfant handicapé, c'est difficile. Ensuite, on grandit avec. On essaye que cet enfant devienne un adulte. Mmh. Et on se heurte à chaque fois. Il y a un passage dans votre film qui était très, très fort, que la maman lui dit « Ne crie pas sur ta console parce qu'on va t'enlever l'enfant ». c'est toutes ces regards, c'est quelque chose qui ne rentre pas tout à fait dans la norme, dans le regard de la compréhension de la société actuelle, qui fait aussi que peut-être les personnes sont freinées elles-mêmes.
Anne-Sophie, vous voulez ajouter quelque chose?
Ouais, non, et puis je trouve ça hyper complètement, mais je pense aussi que nous, en tant que fabricants de représentations, on a aussi un devoir d'aller chercher des physiques, des réalités, des narrations qui sont différentes, qui sont belles, quoi. Donc c'est vrai que moi, ça m'a passionnée, en fait, de rencontrer ces familles et ces jeunes parents. Et oui, effectivement, ça n'empêche pas les épées de Damoclès dont on parlera peut-être, dont parlait Elisabeth, à savoir la question du retrait de la garde qui reste une question qui pèse au-dessus de Joël et Océane et cette question de la console dit ça en filigrane. Et puis la question d'une éventuelle transmission d'un handicap, même si tous les handicaps ne sont pas transmissibles.
Bon, on va y revenir dans un instant. J'aimerais bien qu'on revienne au standard. Pour l'instant, écoutez Chloé. Bonsoir Chloé.
Bonsoir.
Merci, nous vous écoutons.
Merci d'avoir pris mon témoignage, ça me fait plaisir.
Je vous en
voilà,
prie.
Donc Chloé, j'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai deux garçons, un de 8 ans et un de 11 ans. Et notre deuxième garçon de 8 ans a déclaré une très lourde épilepsie à l'âge de 2 ans, très handicapante pour la vie de la famille. Et puis tout doucement, suite à des examens, on a réussi en fait à opérer le cerveau de Basile. Donc l'épilepsie a tout doucement reculé dans son quotidien. En revanche, le handicap, le taux de handicap est toujours bien présent. Et moi, je voulais témoigner simplement en fait pour dire que nous adultes, excusez-moi.
C'est lui qu'on entend derrière vous, Chloé.
C'est lui qu'on entend, oui.
Je crois qu'il veut participer à notre conversation.
Va avec ton papa, s'il te plaît. Après, je t'aime. Voilà, c'était juste, en fait, je voulais juste témoigner que nous, adultes, les parents, on a fait un chemin, on n'a pas eu le choix, hein, le deuil d'un enfant ordinaire. Oui. Le contact très vite avec le fait qu'il aura un parcours particulier et qu'il va falloir se battre tout le temps pour tout. Pour sa scolarisation, pour ses soins, pour beaucoup de choses. Et puis, tout doucement, on s'est quand même rendu compte qu'il avait un grand frère aussi.
Et
ce grand frère, c'est pour ça que je voulais témoigner avec vous ce soir. C'est que lui aussi, au début, on s'est inquiété de comment il avait vécu toutes ces années médicales, on va dire, à l'hôpital de son frère. Et puis maintenant que la santé va mieux de son petit frère, on se rend compte que c'est la construction de la relation fraternelle entre deux frères dont le petit n'est pas ordinaire, ne grandit pas à la bonne vitesse, on va dire. Et du coup, on voit avec admiration tout ce que ce grand frère de 11 ans comprend déjà en fait des choses, toute la pédagogie qu'il met en place pour faire grandir aussi son frère. Et par moments, aussi la colère ou la jalousie, parce que lui aussi fait le deuil d'un frère avec qui il aurait pu être plus proche, partager des jeux, etc. Et voilà, donc j'avais envie ce soir de témoigner. Oui, il y a le lien avec nous, les parents, mais nous, on réagit, on se bat, on a des armes, on a de la force et puis une certaine maturité, une certaine
Vous dites
sagesse.
Tout ça, on a de la force, mais pour combien de temps on a de la force et on a toujours l'impression qu'on entend des parents dans cette situation-là dire on a de la force. Il y a quand même des moments où on n'en a pas de la force aussi. On a le droit de le dire à ce moment-là. On a le droit de le montrer. On s'autorise, c'est plutôt ça la vraie question. Est-ce qu'on s'autorise à en avoir des coups de mou?
Non, pas vraiment.
Ben oui, c'est ça.
Surtout quand on est un foyer, il faut que tout le monde sourie. Et il faut qu'on soit heureux avec cette vie compliquée. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, la société n'est pas facile. C'est un combat quotidien. Après, c'est aussi une résilience et un bonheur d'accepter des choses, de vivre d'autres plaisirs, de voir la vie différemment. Parce que chaque journée qui se passe bien, c'est une journée magnifique, en fait. Et par contre, oui, il y a l'avenir toujours en filigrane au fond de nous, et par moments des baisses de morale, parce que
bien sûr.
Là, on est là, et pour le moment, on a un accueil, une structure, une scolarisation, mais bien sûr, quand on pense à plus tard, oui. Ça, c'est un grand gouffre, ça fait peur.
J'imagine. Alors, merci beaucoup pour votre témoignage, Chloé. Vous avez dit plein de choses intéressantes. Elisabeth Lammers, d'abord, Chloé, elle nous a dit « il faut faire le deuil d'un enfant ordinaire ». Et ça, je crois que c'est fondamental, en fait. C'est la base de tout.
Oui, je pense que le fait de pouvoir accepter que son enfant ait un handicap est la première, c'est la première pierre qu'on pose pour construire un projet pour lui. Et comme on a bien entendu, c'est un parcours du combattant. Chaque enfant, chaque handicap est différent et il faut grandir avec. Mais on a aussi le droit de dire que ça va pas et on a aussi le droit d'avoir du répit.
Vous les soutenez dans votre association, les parents, oui. Vous les accompagnez, oui. Qu'est-ce que vous faites pour eux?
Oui, nous avons un accompagné de chaque association à une action familiale, à un accompagnement pour les parents, mm-hmm. Propose des séjours de répit avec ou sans enfant et essaie de voir que la famille puisse exister et continuer à vivre et faire face au handicap, c'est un parcours du combattant, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Mm-hmm.
Elle parlait aussi, Chloé, de l'importance de la fratrie, c'est vrai que c'est un enfant qui arrive et ça bouleverse tous les équilibres de la famille.
Oui.
Et pour les frères et sœurs, c'est difficile de trouver sa juste place.
Oui, c'est assez difficile, souvent la fratrie se sent coupable. Souvent, ils pensent que c'est de leur faute. Donc, il faut absolument travailler aussi avec les sœurs et frères. Il y a aussi des associations au sein de notre réseau UNAPI qui proposent un accompagnement aux frères et sœurs. Et la prochaine enquête que nous allons lancer, la première enquête que nous avons lancée, c'était sur les parents. Mm-hmm. Et donc, 91% des parents font de l'accompagnement de leur enfant la priorité de leur vie.
Sur tout le reste, hein. Oui, c'est ça. Ouais, 91%, c'est-à-dire la quasi-totalité.
C'est vraiment le projet de vie des parents.
Le comme projet de vie, tout, Chloé, en fait, tout tourne autour de cet enfant.
Bah, comme on a vu Chloé, et Chloé s'est bien rendu compte qu'il y avait un grand frère, mais c'est vrai qu'elle fait face et elle essaye aussi d'avoir, comme toute maman, je pense, ou tout papa, d'avoir une vie de famille, malgré
bien
tout.
Sûr. Charles, est-ce que vous avez des frères et sœurs, vous?
Oui, j'ai une sœur.
Et comment ça s'est passé avec votre sœur? Est-ce que vous reconnaissez certaines choses dans le témoignage de Chloé qu'on a entendu il y a quelques minutes?
Ben, moi, personnellement, j'ai pas un handicap si handicapant que ça, si
oui.
On peut dire.
Oui.
Et de toute façon, ça s'est déclaré en fin d'adolescence. Et ma sœur est partie de la maison, je sais pas, à 20 et quelques années. Donc finalement, j'ai développé ma spécificité quand elle n'était pas là. Mm-hmm. Donc, elle habite à Marseille, elle a fondé sa famille là-bas. Donc finalement, j'ai pas énormément de...
Oui, ça s'est bien passé, ouais. En fait. C'était, oui, c'était assez fluide.
Pas de soucis.
Bon.
Voilà.
Très bien. On va poursuivre cette conversation avec Anita, qui est à Montpellier. Bonsoir, Anita.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Alors, moi, je voulais dire que c'est vrai, tous les témoignages rejoignent vraiment ce que je pense. L'annonce du handicap, très tôt, à la naissance, souvent, est un problème, parce qu'on ne pose jamais des yeux sur son enfant normal, en fait. On n'a pas le temps de nous laisser avoir confiance dans nous, enfin dans nos capacités de parents.
Oui.
Et donc, ça, c'est déjà un problème. Et après, il y a effectivement tout ce parcours où on rencontre des gens formidables et d'autres gens qui nous disent ce qu'ils feraient si eux-mêmes avaient un enfant en situation de handicap.
Oui.
Moi, j'ai de la chance, ma fille est maintenant à 23 ans, travaille à Paris, dans un atelier, les ateliers Bizet, un atelier de broderie. Mm-hmm. Donc, elle a trouvé sa voie. Mais c'est elle qui m'a appris à grandir, m'a appris
ça.
L'indépendance. Qui m'a dit dans sa façon d'être, maman, vis ta vie. Moi, maintenant, je suis grande. Tu as fait ton job, en fait.
Elle vous a bien déculpabilisé là.
Ah oui, vraiment. elle a, et pourtant, j'ai été plein de fois, on m'a dit, quand elle grandissait, tu la couves trop, tu vas pas la laisser vivre, elle pourra pas vivre sans toi. En plus, elle est sourde, donc j'étais vraiment sa barrière entre le monde et elle, quoi. Donc on m'a vraiment culpabilisée en me disant mais même les parents comme toi, ils peuvent avoir des enfants homosexuels, tellement ils les couvent. Ah, des trucs incroyables, on a envie de pleurer, quoi.
Ah oui, je comprends, oui.
Mais les enfants en situation de handicap ont aussi une force en eux qu'on ne soupçonne pas, qu'on découvre à mesure qu'ils grandissent.
En fait, on les croit fragiles et qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus forts qu'on ne le pense.
Oui, exactement. Exactement. Et c'est eux qui nous disent, c'est bon, c'est notre tour de prendre notre vie. Enfin, en tout cas, pour ma fille, elle n'est que, entre guillemets, sourde. Mais je pense que l'annonce d'un handicap, quel qu'il soit, et tout le temps, effectivement, le deuil de cet enfant normal.
Qu'on a rêvé, en fait, oui. Le deuil, c'est le deuil de l'enfant rêvé. Merci infiniment pour votre témoignage. Je retiens une phrase. C'est elle qui m'a appris à grandir, Anne-Sophie Bailly.
Oui, forcément, ça me touche beaucoup, parce que le chemin du film, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est à un moment, un jeune homme qui réclame sa liberté, qui réclame son autonomie, qui réclame son amour, qui clame son amour et qui permet à sa mère de redécouvrir qui elle est par ce biais-là. J'avais très envie que finalement ça soit un double parcours et que en lui s'affirmant comme le jeune homme plein d'envie qu'il est, il lui permette à elle de redécouvrir la femme qu'elle est elle aussi.
Il y a des moments de colère formidables, hein, où elle lui dit à propos de lui, donc de cet enfant, moi j'en voulais un normal.
Ouais, ça me rappelait la dame qui parlait de son aîné tout à l'heure et qui disait, parfois il est en colère parce qu'il a envie de jouer avec son frère et son frère il joue pas comme il voudrait, etc. Il y a quelque chose où je trouve que c'est tellement dur en fait de pas laisser cette colère s'exprimer. Ça veut pas dire qu'elle est juste, hein, mais ça veut dire qu'elle est, enfin, elle est tellement humaine. Et je crois que si on arrive à la regarder, c'est déjà lui donner un peu de place, quoi.
Pour moi, il y a une phrase clé dans votre film. Il y a une réplique que prononce Charles, justement, à un moment où ça va pas fort entre eux, on va dire. Ils sont très en colère l'un contre l'autre et il dit à sa mère, mais on se tire vers le bas.
Ouais, j'adore quand Charles dit ça.
D'abord, vous le dites très bien. C'est très convaincant, Charles.
Merci, mais je tiens à dire que tout à l'heure, je disais normal. Je trouve que c'est un peu choquant comme terme. Oui. Mais parce que c'est fait pour être choquant dans le film, c'est dit de façon choquante. C'est ça que...
C'était pour dire les choses.
Voilà, voilà. J'ai pas envie non plus de faire qu'on ait mauvaise presse.
Non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc, on se tire vers le bas, Anne-Sophie Bailly. Est-ce qu'à un moment, effectivement, on n'est pas dans une relation où, au-delà de l'amour, il y a quelque chose d'un petit peu mortifère ?
En tout cas, dans ces relations-là, il y a un tel mélange de la fusion un peu originelle et en même temps qui passe avec le ressentiment, avec de la colère, avec des choses qu'on n'arrive pas à se dire, que évidemment que je pense qu'il y a quelque chose dans ces équilibres qui, dans le même temps, que je trouve absolument fascinant. Ils sont beaux, mais ils sont aussi effectivement pétris de...
Mais est-ce qu'à un moment, tout le monde ne doit pas avoir cette réflexion-là, Elisabeth Lammers, on se tire vers le bas, c'est possible ça, d'avoir ces moments-là quand même?
En tout cas, il faut qu'on puisse...
Il faut le verbaliser.
Ouais, hein. Complètement.
Elisabeth Lammers.
Oui, c'est... Avant que j'oublie, il faut d'abord que je vous remercie d'avoir fait ce film, parce qu'on ne parle pas souvent du handicap intellectuel et de cette parentalité. C'est déjà... C'est formidable. Donc, avant que j'oublie de vous féliciter. Et évidemment, la remise en question, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Je pense que toute maman fait ça avec les enfants, handicapés ou pas. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai interdit ça? Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que j'aurais pas dû le laisser partir? Est-ce que j'étais trop sévère, pas assez sévère. Mais c'est pareil, avec un enfant en situation de handicap, peut-être un peu plus accentué, parce que on est peut-être un peu plus directive, on veut le protéger de la société. Mais oui, il faut prendre des risques, c'est ça surtout. Mmh. On doit prendre des risques, ça fait peur.
Oui, ça fait peur.
Aller le laisser partir tout seul, prendre le train tout seul, voilà.
C'est le « après moi », en fait.
Ah bah oui, l'après-moi...
Le après-moi, c'est
effrayant.
C'est comme un gouffre, Anne-Sophie Bailly.
Ouais, hier soir, il y avait une dame que je connais un petit peu, qui était dans le public à Pontarlier, d'où je viens, et qui a vu le film, et qui a un grand garçon qui est en situation de handicap et qui s'est marié il y a quelques années, et qui voulait un enfant, qui est en questionnement maintenant et tout ça, et elle m'a dit, le film m'a tellement énervée, parce que je me reconnaissais dans elle, et je me disais, ça m'énerve, et je me dis, non mais c'est quand même hyper intéressant ce que ça crée de tension chez les gens, quoi. Mmh. Et pardon, c'était quoi votre question? Ça me faisait penser à ça.
Je sais plus. Vous m'avez perdu. Je crois qu'on s'est un peu perdu, on s'est un peu tiré vers le bas.
C'est possible.
Allez, on retourne au standard. Écoutez Sylvie qui nous appelle de Chambéry. Bonsoir Sylvie, soyez la bienvenue sur France Inter.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon témoignage. Voilà, moi, je suis la mère d'un grand garçon qui est autiste. Il est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Et donc, mon fils a un retard cognitif important et un handicap social majeur à cause de sa pathologie. Et ce handicap, je dirais qu'il s'accentue au fil des années, mais aussi en fonction des circonstances de la vie, comme par exemple des maladies dont il a été victime cette année. Et le regard des autres, évidemment, a souvent été un problème, a même toujours été un problème aussi dans la sphère publique, parce que le comportement d'un autiste, c'est pas toujours facile. Oui. Voilà, quand il a des angoisses, il est submergé par ses angoisses et il n'arrive pas à contrôler ses gestes. Et il y a eu des faits de violence dirigés contre ses proches et contre moi en particulier. Et ce que je voulais dire, quand il était... Je voulais raconter une petite anecdote. Quand il était petit, un jour, j'étais dans un parc public, et donc ça se passait assez mal, dans un jardin public, et à ce moment-là, il y a un monsieur qui m'a dit « Oh là là, mais vous les éducateurs, c'est... »
Ah mince, on a perdu... Oui, Sylvie, voilà, vous revoilà. Pardon, vous avez perdu.
Ah d'accord.
Donc, vous nous racontiez que vous étiez dans un parc un jour avec votre fils.
Voilà. Et à ce moment-là, donc, ça se passait pas très bien. Et un monsieur qui est intervenu, qui m'a dit, mais vous, les éducateurs, vous faites un métier difficile, les éducateurs spécialisés, c'est pas facile votre métier. Et en fait, il a pas compris que j'étais sa maman. Il a pensé que j'étais son accompagnatrice, quoi. Mmh. Et j'ai trouvé ça assez amusant. Et je lui ai rien dit. Mais des années plus tard, cette anecdote m'est revenue. Et en fait, je m'en sers finalement. C'est une technique que j'utilise quand c'est trop difficile, quand mon fils se comporte mal et que ça me touche beaucoup, que ça me fait beaucoup de souffrance aussi. Mmh. Et pour pas être trop dans l'émotion et pour me remettre aussi facilement de ces situations, je me détache un peu de mes rôles de mère et je me mets dans le rôle de l'éducatrice. En fait, c'est l'éducatrice qui se substitue à la mère et ça, c'est comme si je le regardais.
Vous mettez un peu d'émotion à distance.
C'est ça, tout à fait, exactement.
C'est une façon de vous protéger.
Oui, tout à fait. Je me protège et j'arrive finalement à surmonter plus facilement les situations. Quoi. Bon, ça marche pas toujours, mais je dirais que c'est une petite technique que je pourrais conseiller à des mamans qui sont, comme moi, confrontées à ce genre de situation. Quoi. Voilà.
Elisabeth Lamers, qu'est-ce que vous en dites de la technique de Sylvie?
Je trouve que Sylvie a trouvé la technique qui va bien pour elle, pour qu'elle tienne le coup. C'est parfait. Je veux dire, il y a pas, on n'a pas.
Chacun trouve son chemin.
Oui. Chacun a sa façon et chacun dit aussi et fait comme il peut.
J'ai trouvé qu'il y avait un chiffre intéressant qui a retenu mon attention dans votre enquête menée par l'UNAPI, Elisabeth Lamers. 65% des parents jugeaient difficile de trouver la bonne place entre le rôle de parent et celui d'aidant.
Oui, parce que c'était justement ce que Sylvie avait dit avant. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'on a aussi le droit d'être maman. tout simplement. Mm-hmm. On ne doit pas être infirmière, chauffeur de taxi, orthophoniste, psychothérapeute, etc. C'est tous ces métiers-là qu'on a quand on est aidant. Mm. Mais on a aussi le droit d'être parent, tout simplement maman ou papa, et sans devoir faire toutes ces tâches. Ça, c'est... On est un peu dégradé parfois, à, je dirais, par être aidant. Mais on est parents avant tout, aimants. On est très fiers aussi. Il y a beaucoup de parents qui sont très fiers du parcours de leur enfant. Parce que nos enfants, finalement, ils doivent faire beaucoup plus d'efforts que d'autres enfants.
Mmh. On va prendre un dernier appel. C'est Luc qui est à Lille. Bonsoir, Luc.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Oui, merci. Juste pour dire effectivement que nous, on a eu de la chance puisqu'on a pu proposer à notre fils, qui a 34 ans maintenant, qui est le troisième d'une fratrie de quatre, un logement inclusif, c'est-à-dire un habitat inclusif, grâce à Famille Solidaire, qui propose partout en France donc des solutions de droit commun, puisqu'il est chez lui, avec deux autres colocataires. Ils ont créé 12 emplois pour pouvoir assurer du 24-24, 7 sur 7. Et ils ont un budget, ils gèrent un budget en gros de 500 000 euros par an. Ça veut dire que c'est du droit commun, tout le monde peut le faire. Toutes les personnes qui ont des aides, que ce soit de la H ou des PCH, mon fils a 19 heures par jour d'aide humaine, plus des aides matérielles. Et ça, c'est très peu connu aujourd'hui. C'est une alternative entre l'établissement qu'il a fréquenté jusqu'à ses 25 ans et le domicile qu'il avait fréquenté dans les 10 premières années. Mmh. Je voulais insister là-dessus.
Et oui, c'est important.
Oui, j'insiste aussi sur les fratries, parce qu'effectivement, la chance qu'on a eue d'avoir des enfants normaux, entre guillemets, et un extraordinaire, a fait monter aussi, j'irais un petit peu, en compétences sociales et humaines, les frères et sœurs qui l'ont accompagné, puisque, et ça a donné lieu aussi de quelque chose d'original, puisqu'il y a un film qui va sortir sur cette aventure, réalisé par les frères et sœurs, avec les moyens du bord, qui va sortir en avril, qui s'appelle Debout Frérot. Ouais. Il y a un S à Frérot, parce que tout le monde, effectivement, s'est senti grandi et se tient debout face aux difficultés rencontrées, que je comprends tout à fait. Et là, je disais aussi qu'il y a beaucoup aussi de couples, de parents qui s'effritent avec le handicap. Et nous, on a de la chance, effectivement, après 45 ans de vie commune, d'être avec ma compagne, toujours aux côtés des frères et sœurs. Et ça, finalement, j'insiste qu'il y a beaucoup de cas de
séparation. Et vous avez raison, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Alors, on arrive vraiment à la fin de cette émission, mais vous l'abordez un petit peu en creux dans votre film Anne-Sophie Bailly, parce que le père de Joël, il est absent. Hein.
Oui, il est parti. C'est une famille monoparentale et c'est le cas, effectivement, de beaucoup de mamans qui ont des enfants en situation de handicap. Complètement, ça correspond à une réalité sociologique.
Mm-hmm. Merci beaucoup. Je redonne le titre de votre film, Anne-Sophie Bailly, Mon Inséparable. C'est votre premier film, il est très beau.
Merci
d'être venu. Merci Charles d'avoir accompagné Anne-Sophie.
Merci
à vous, Elisabeth Lammers. On vous souhaite une bonne soirée à tous.